Vortex et rotative.
L'émission où l'on vous parle de nos livres de science-fiction préférés.
Sur Radio Dragon et Campus Grenoble.
Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes à l'écoute de Campus Grenoble 90.8 et Radio Dragon 104.4 et 96.8.
Aujourd'hui, on va vous parler du recueil de nouvelles WAPKE, coordonné par Michel Jean, paru en 2021 aux éditions québécoises Stanké. WAPKE est un recueil de nouvelles d'anticipation autochtones publié en 2021 au Québec. C'est le premier de la sorte et il fait suite à un autre recueil de nouvelles autochtones en littérature générale, Amun, publié en 2016. Suggéré par certaines autrices, la consigne pour ce deuxième recueil était que les nouvelles se passent dans le futur, qu'elles permettent de se projeter dans l'avenir. Le résultat ? 14 nouvelles futuristes, écrites en majorité par des femmes, qui occupent une place importante dans la littérature autochtone du Canada.
Les autrices du recueil WAPKE viennent d'horizons divers. Elles sont de plusieurs nations et groupes autochtones au Québec, ce qui met bien en valeur la diversité de styles d'écriture dans la littérature autochtone. Elles font aussi partie de générations différentes, et puis certaines d'entre elles ont déjà publié plusieurs ouvrages, quand d'autres écrivent leurs premières nouvelles. Certaines sont déjà connues dans d'autres domaines, comme la chanson ou le journalisme, et certaines sont actives comme universitaires dans un domaine artistique, la radio, l'enseignement, le cinéma. Comme le premier recueil Amun, WAPKE est coordonné par le journaliste et écrivain de nation Innu, Michel Jean, qui a déjà publié plusieurs romans et a une certaine reconnaissance. Il s'appuie sur sa notoriété pour visibiliser d'autres autrices à travers ses ouvrages collectifs. En plus de Michel Jean, les nouvelles du recueil WAPKE ont été écrites par Marie-André Gilles, Katia Bacon, Louis-Carl Picard-Sioui, Virginia Pézema-Péo-Bordelot, Jean Sioui, Cindy Wild, Elisapi Isaac, Isabelle Picard, J.D. Curtness, Natacha Canapé-Fontaine, Janice Ottawa, Alissa Jérôme et Joséphine Bacon.
Comme toujours dans la bonne littérature de science-fiction, les nouvelles de ce recueil parlent certes du futur, mais elles nous apprennent aussi des choses sur le présent et le passé. Depuis la colonisation européenne des Amériques, l'histoire des différents groupes autochtones au Canada est marquée par des violences, des déplacements et assimilations forcées, passant entre autres par l'interdiction de nombreuses pratiques culturelles et spirituelles, et l'envoi forcé d'environ 150 000 enfants dans des pensionnats pour, je cite, « tuer l'Indien dans l'enfant ». On estime que 3 à 6 000 enfants n'y ont pas survécu. Aujourd'hui encore, les Autochtones sont surreprésentés parmi les populations pauvres et carcérales au Canada et sont les cibles d'un racisme structurel. Ancrées dans ces réalités, les nouvelles du recueil WAPKE imaginent des futurs en revendiquant l'autonomie autochtone et l'accès au territoire, en célébrant des savoir-faire anciens tout autant que l'appropriation d'engins high-tech, en dénonçant des pratiques racistes et la domination culturelle, en racontant la résistance de la nature et des communautés, en parlant de luttes et de gestes du quotidien.
Aï, Tugasugitsi Nunavimi. Bienvenue au Nunavik. Welcome to Nunavik, qui signifie la terre où on s'installe. Je serai votre guide. Je suis là pour vous. Je connais bien ce territoire, sa faune. Je serai là pour répondre à vos questions durant ce trajet de 2 semaines au rythme des flots du Nord et des histoires ancestrales de chez nous. Je vous le dis tout de suite, on n'est pas pressé. Je m'appelle Tayara. Oubliez mon nom de famille, c'est pas important. C'est les Kalunak, les Blancs, qui nous ont collé ces noms de famille au XXe siècle, quand ils ont décidé que les numéros, ça faisait pas très humain. « Les nouvelles du recueil Wapke sont des anticipations relativement négatives, voire dystopiques. Beaucoup traitent du thème de la catastrophe climatique et de la montée des eaux. Certaines parlent aussi d'épidémies et de guerres. Ces thématiques existent avec leurs conséquences dans la vie quotidienne et intime, mais aussi d'un point de vue général et historique. C'est par exemple le cas de la nouvelle « Les enfants lumière » de Virginia Pezemapeo-Bordelot, qui est métisse criée de Rapide les Cèdres.
Jamais il n'aurait cru que la fin surviendrait ainsi, d'une manière si spectaculaire. Pourtant, des signes concrets avaient indiqué que quelque chose ne fonctionnait plus, comme des pandémies mondiales, des maladies transmises de l'animal à l'homme et vice-versa, ou la masse des glaciers éternels des pôles qui s'était réduite comme peau de chagrin. Malgré les économies mises à mal et les morts par millions, l'humanité n'avait pas cessé de croire aux ressources illimitées de la Terre, donc avait poursuivi sa course vers son extinction.
Un des autres aspects de la dystopie, c'est la continuité dans le racisme et les persécutions vécues par les autochtones au Canada. Ces nouvelles montrent comment les catastrophes touchent particulièrement les natifs et comment les violences sont ancrées dans l'histoire coloniale. Mais elles montrent aussi qu'il n'y a pas de rupture avec cette histoire coloniale et que les persécutions peuvent se répéter ou s'aggraver. Et c'est le cas dans le texte intitulé « Minishtikok, l'île » de Janice Ottawa, qui est Atikamek de Manawan.
Dans les hôpitaux, beaucoup d'entre nous ont été tués. Ceux qui étaient atteints d'un cancer étaient laissés à eux-mêmes ou aidés à accélérer leur départ vers les esprits, nos ancêtres. Nos chefs se sont aussi battus pour sauver nos territoires et nous avons été vaincus. Les pipelines ont été installés d'un bout à l'autre du pays. Là où nous pouvons voir les pipelines, il y avait des communautés autochtones. Et aujourd'hui, plus rien. Tout le monde est mort. Le nouveau gouvernement avait annoncé une aide pour les familles autochtones à faible revenu. Il devait apporter de la nourriture dans plusieurs communautés. Les familles ont été empoisonnées, puis les enquêteurs ont rapporté des suicides collectifs lorsque les nôtres ont appris que plusieurs communautés avaient été décimées.
À travers ce regard pessimiste sur l'avenir, les nouvelles nous renvoient à la violence de la société actuelle et de l'histoire récente. Plusieurs nouvelles font écho aux difficultés de reconnaissance de l'identité autochtone, aux pensionnats, au contrôle des naissances et aux stérilisations forcées. Alors que des luttes actuelles tentent de faire reconnaître ces violences subies, plusieurs nouvelles du recueil Wapke s'inscrivent dans ces dynamiques en thématisant autour des sujets de l'identité, de la transmission et de la natalité. C'est particulièrement le cas avec la nouvelle Pakan, autrement, de Cindy Wild, qui est Anishinaabe et Atikmatek de Pikogan.
En conformité avec les dispositions de la loi sur les Indiens, nous sommes dans l'obligation de rejeter la demande d'inscription de votre enfant. Il est entendu que si l'un des parents d'une personne est inscrit en vertu du paragraphe 6.2 et que l'autre parent est inconnu ou non déclaré, cette personne n'est pas admissible à l'inscription. Nibi froisse le papier et regarde Maïka. « Voilà, pense-t-elle, ton sort est scellé, ma chérie. Notre lignée, pour le gouvernement, s'arrête à toi. » Elle enrage à réfléchir sur le fait que le fonctionnaire qui a écrit cette réponse se contredit sans gêne. Elle sait qu'il est impossible de prouver quoi que ce soit, puisque tellement de dossiers ont été interprétés à la guise de la couronne. Père inconnu, aucun statut autochtone n'est prévu. Point à la ligne.
Plusieurs nouvelles racontent aussi des histoires de résistance, de groupes qui s'organisent, de lutte armée, de complicité et de solidarité entre des personnes. Isabelle Picard, qui est Wenda de Wendake, le développe dans sa nouvelle « Le quatrième monde ».
Moi aussi, Hilda, moi aussi. J'ai l'impression que quelque chose se prépare. Je dis ça comme ça, mais ces étoiles graffiti, moi, elles me donnent de l'espoir. Il faut voir les signes, répondit Elsie en fixant longuement la dame. La jeune femme se leva enfin, remercia son hôtesse et se dirigea vers la porte, non sans avoir un peu plus facilement cette fois enfilé les bottes usées que lui avait prêtées la dame, ainsi que son manteau. Hilda la suivit avec une part de lait d'oiseau qu'elle avait emballée. En relevant ses longs cheveux épais pour les décoincer de sa redingote, Elsie laissa apparaître le tatouage discret d'une toute petite étoile bleue sur sa nuque. Hilda comprit et sourit. « Pour certaines autrices du recueil Wapke, leurs nouvelles sont aussi une manière de raconter des événements historiques de leur point de vue, de faire exister leur histoire. Et elles font le lien entre le passé et le présent, voire le futur, et reviennent par exemple sur les causes des changements climatiques à l'origine des montées des eaux, ou parlent des dimensions historiques des persécutions. La nouvelle « Les couleurs de la peau » de Jean Siou, Wendat de Wendake, fait le lien par exemple entre des événements qui ont eu lieu en 1534, des politiques actuelles en 2020 et les années 2200. 700 ans après le débarquement d'une expédition d'hommes blancs, l'histoire semble offrir une revanche avec l'avènement d'un nouveau virus qui ne contamine qu'une partie de la population.
Le 1er janvier 2234, un phénomène anormal surprend la population blanche. Le réveil sournois d'un virus inconnu qui se répand rapidement dans tout le pays. Les scientifiques baptisent le virus Vanora bleu ou variole 7. Ils croient à une nouvelle mutation de la variole qui a décimé les Wenda au début du XVIIe siècle. L'épidémie affecte tous les enfants de la descendance des premiers colons qui ont apporté la variole dans leur bateau à grande voile. Une maladie qui, à l'époque, a atteint sévèrement les Hurons Wenda, une abomination qui a parcouru la terre-mère pendant plusieurs années. Aujourd'hui, le variole 7 attaque les nouveau-nés au Canada. Les bébés blancs naissent bleus, tandis que les bébés rouges restent blancs.
Dans la nouvelle Kanatabe Ishkueu, Natasha Kanapé Fontaine, Inou de Pessamit, imagine un avenir où les colonisés vont se réapproprier les choses dont elles ont été dépossédées lors de la colonisation. L'autrice dessine alors une histoire alternative qui valorise des savoirs méprisés par l'histoire coloniale et qui fait entrevoir de nouvelles alliances et d'autres histoires possibles.
En 2035, il est annoncé que le réchauffement climatique, même si la technologie a pu le retarder encore et encore, provoquera un revers de situation inattendu dans les 20 prochaines années, une nouvelle ère glaciaire. Durant 20 ans, le Kanatabe, suivant les savoirs ancestraux des peuples autochtones de son territoire, entreprend la construction de nombreuses infrastructures géantes au-dessus des villes et des métropoles afin que la neige et le froid extrême ne viennent pas déranger la vie humaine et le reste des êtres vivants. Les pays africains, désormais puissances mondiales depuis la reprise par leurs habitants des ressources naturelles des mains de l'Europe et de la Chine, conçoivent, selon le modèle Kanatabe, des stratégies pour sauvegarder la végétation tropicale. Le Kanatabe devient leur premier partenaire dans l'élaboration et l'expansion de cette architecture climatique, comme elle sera nommée dans le monde. L'ère glaciaire débute vers 2048 et elle est complètement installée en 2054.
Dans une interview, l'écrivain Michel Jean, Inou de Mashtoyat, qui a dirigé la publication de Wapke, revient sur son histoire personnelle et l'importance de raconter l'histoire, ou plutôt les histoires, des Autochtones au Canada. En voici un extrait.
J'ai grandi dans une famille qui a été élevée à l'extérieur de la communauté, donc dans un milieu allochtone. Je parlais pas que j'étais autochtone au début parce que ça valait que des railleries, des blagues, et c'était pas quelque chose qui vous valait une tape dans le dos. Donc moi, je voulais simplement pas de soucis, pas de problème, donc j'en parlais pas, pour me fondre dans la masse, si on veut. J'ai commencé à en parler plus tard, quand à un moment donné, j'ai réalisé que peut-être qu'il était temps que je cesse de me préoccuper de ce que les autres pensent et que je dise, écrive, fasse ce dont moi j'avais envie. Et j'ai commencé graduellement. Cela dit, je n'écris pas que sur des sujets autochtones et je pense que c'est important. C'est pas parce qu'on est autochtone qu'on ne peut parler que de questions autochtones. On est capable de parler de bien d'autres sujets. J'ai écrit dans les dernières années un roman qui se passe dans le Grand Nord. J'ai écrit un roman qui se passe au Sri Lanka avec les tigres tamouls. Et j'ai écrit des romans aussi qui touchent les questions autochtones. Pour moi, c'est souvent ce qui me pousse à écrire sur ces questions-là, c'est que comme les Autochtones sont très peu présents dans l'espace public et qu'on n'a pas beaucoup de place dans les livres d'histoire, nos histoires, elles sont nulle part. Donc, si nous, on n'écrit pas nos histoires, qui va le faire à notre place? Donc, souvent, je me sens comme, je dirais pas une responsabilité, mais je me dis, bon, il y a une bonne histoire, là, je devrais la faire, puis ça va faire œuvre utile en même temps. Il faut comprendre que quand vous allez à l'école et que vous êtes un Autochtone au Canada, ben, votre histoire, elle est pas dans les livres d'histoire. Quand on apprend l'histoire nationale au Québec, là, ça commence avec Christophe Colomb en 1492 et Jacques Cartier en 1534. On voit un peu les Autochtones au début, lors de la colonisation. Après, on les voit pas. Les pensionnats autochtones, par exemple, les jeunes n'apprennent pas ça. Alors, les Allochtones ne l'apprennent pas, mais les Québécois non plus. Les Autochtones non plus. Alors, les gens, ils sont contents de voir leur histoire. Et ils sont pas comme « ra, 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 c'est super, notre histoire est dans un livre ». Ils sont simplement contents de voir que leur histoire est traitée comme n'importe quelle autre histoire et a la même valeur. Vous savez, nous, entre Autochtones, on s'appelle tous frères et sœurs. Alors, on est tous des frères et des sœurs. Alors, c'est toujours notre histoire. Qu'on soit Atikamekw, Innu, ou Wendat, ça reste notre histoire.
Vous êtes avec Vortex et Rotative sur Radio Dragon et Campus Grenoble.
Aujourd'hui, on vous parle du recueil de nouvelles d'anticipation autochtone Wapke. Même si dans pas mal de nouvelles du recueil Wapke, il y a un parti pris assez dystopique, il y en a aussi qui ont des fins plus heureuses. Plusieurs nouvelles font des propositions pour mettre fin à, ou au moins limiter, les maux de ce monde. Parfois, cela passe par un retour à des pratiques ancestrales autonomisantes, ou par une prise de confiance dans une identité culturelle autochtone. D'autres fois, les sociétés futures capables de créer un monde meilleur sont composées d'identités multiples, comme par exemple dans la nouvelle Les Enfants Lumière, déjà citée précédemment.
Parmi cette population multiethnique, un contingent était arrivé de la Chine, composé d'étudiants qui venaient suivre des cours en exploration minière donnés par une jeune université dont le mandat était de s'ouvrir sur le monde. Puis des travailleurs en provenance de pays africains et d'Haïti, autant des hommes que des femmes, avaient été embauchés pour pourvoir des postes en éducation, en travail social, en médecine ou dans les mines. Il y avait même un descendant des autochtones autrefois nommé aborigène d'Australie.
Au-delà de mettre fin aux violences et injustices subies, il s'agit aussi de guérir. Guérir des blessures psychiques et traumatismes collectifs que ces violences ont engendrés sur des générations. Guérir l'environnement de la destruction et des pillages par les Blancs et leur système capitaliste. Et ce n'est pas rare qu'il y ait un lien entre les deux. Les gens vont mieux quand la nature va mieux et l'inverse. Dans pas mal de nouvelles, on retrouve cette idée qu'on appartient à l'endroit où on vit. Ce n'est pas séparé, on en fait partie, et toute guérison est alors liée d'une manière ou d'une autre au territoire. Comme dans la nouvelle Kanatabe Ishkuehu.
Blessés par l'histoire canadienne atroce à leur égard, les premiers peuples ne savaient plus où mettre les limites de leur cœur, qui avait été violé de toutes parts. C'est pourquoi, dans les années qui avaient suivi, le mouvement Nevermore était venu solidifier le discours de l'identité autochtone. La Constitution canadienne avait créé des lois et des règlements pour protéger les nations, et les nations ont élaboré chacune leur charte de l'identité et de l'appartenance à la nation. Non seulement nous devions désormais protéger notre identité d'autres formes modernes de pillage, de vol, d'appropriation et d'usurpation, mais ces actions fermes ont inspiré les peuples à retrouver leurs terres ancestrales. Nevermore est devenu un mouvement planétaire de réoccupation des terres autochtones. Kani, quoi ? Tu parles comme si tu avais été là ? Haha, je sais, je suis passionnée par ces mouvements-là. C'est comme ça que nous avons pu redessiner la carte du pays, le renommer Kanatabe. Les nations ont repris leurs terres. Je pourrais t'en raconter encore plus, mais c'est hyper long.
Cette question du territoire est aussi un sujet lors d'une table ronde au Salon du Livre de Montréal en 2021, qui rassemble plusieurs autoristes du recueil. Isabelle Picard, J.D. Curtis, Joséphine Bacon et Michel Jean. Point de départ de la discussion était la question « Pourquoi écrire des nouvelles d'anticipation autochtones ?»
Bien justement, c'est qu'on s'est beaucoup étudié hein, à travers le passé, à travers le mode de vie traditionnel, à travers comme anthropologue, autant Louis-Carl que tu mentionnais que moi. Puis à un moment donné, on s'étudie à partir du présent, hein, on est en train de se comprendre, on est en train d'investiguer sur qui on est, ce qu'on veut. Nous aussi, on est en train de se guérir aussi. Mais j'avais envie de pousser ça plus loin puis dire, bien, si on veut se comprendre aujourd'hui, peut-être qu'on pourrait se projeter dans l'avenir puis aller voir qu'est-ce qui va nous arriver comme peuple. Je me questionne beaucoup, évidemment, sur les Premières Nations, tout ce qu'on fait aujourd'hui. Est-ce que ça va nous permettre de se projeter, en fait, d'exister demain? C'est cette existence-là même que je vais venir questionner à travers le futur. Puis je trouvais que c'était une façon de faire qui était drôlement intéressante que de pouvoir se projeter. Puis ce que je trouve intéressant là-dedans, c'est qu'on se projette à peu près tous, à partir du territoire. On l'a dit, on avait une conférence la semaine dernière, nous trois, puis ce terme-là, on dirait que c'est indissociable, finalement. le futur, du futur du territoire puis de l'environnement. Donc, on est vraiment dans les questions contemporaines et actuelles.
Toi qui connais bien quand même le territoire pour l'avoir visité, tu parlais de Neutumit, justement, il y a un instant, qui est l'arrière-pays pour les Innus. Et chaque nation a son territoire, son nom, c'est comment pour les Wendat, d'ailleurs?
Niowensio.
Bon. Mais comment t'expliques, par exemple, que le territoire occupe autant de place dans l'imaginaire des auteurs?
Dans l'imaginaire des auteurs, pourquoi ils l'occupent? Parce que moi, je trouve que tu ne sors jamais de Neutumit. Parce qu'on entend toujours parler de Neutumit, et d'autant plus maintenant qu'il y a des négociations, des revendications. Tu t'entends toujours parler. Puis Neutumit, c'est un mot que tu as impossible de mettre au possessif. Donc, Neutumit, pour un nomade, c'est un endroit ou un espace dont il a besoin, parce que Neutumit n'a absolument pas besoin de nous, mais nous, on a besoin d'elle, parce que c'est là que tu trouves ton identité, ta culture, puis c'est là que se trouvent aussi tous les rêves, et puis tous les esprits des animaux se trouvent là.
Moi, j'ai accroché sur le mot dystopie. Donc, je me suis dit...
Ça donne bien, c'était le premier critère.
Ça. Ben voilà, fait que je me suis dit, je vais y en faire une dystopie. Je vais écrire quelque chose de vraiment, vraiment noir. Puis en même temps, je me suis dit, c'est quoi la pire chose pour moi, ou même à la limite, pour beaucoup de gens, dont les Premières Nations, c'est la déconnexion avec le territoire. Donc, en choisissant volontairement de si on veut, de vivre dans un monde numérique ou virtuel... perpétuellement 24 heures sur 24, il y a cette espèce de violence, de déconnexion avec le territoire. Puis, qu'est-ce qui pousse les gens à vouloir vivre dans ce monde imaginaire-là, ce monde
imaginaire? Ça veut dire que j'ai pas catché qu'il y avait une connexion avec la déconnexion du territoire, là? Hey, j'adore ça, j'aime ça. Vas-y,
ben, je l'aurais pas phrasé comme ça.
Tu peux le dire, continue.
Mais en fait, c'est... Qu'est-ce qu'une nouvelle autochtone? Ça, on peut oui. se poser ça comme question aussi. Est-ce que c'est pas autochtone parce que j'aborde pas... disons, l'identité autochtone dans la nouvelle, mais en même temps, c'est des préoccupations qui rejoignent les Premières Nations, mais qui rejoignent aussi, je pense, un peu tout le monde.
Dans beaucoup des histoires de Wapke, les plantes et les animaux font partie de la vie des personnages et sont utilisés au quotidien pour se soigner ou pour se nourrir. C'est par exemple présent dans les rêves de Anahit, qui est la narratrice de la nouvelle « Wapush Unaikan » de Alissa Jérôme, et cette autrice, elle est Innu de Washat Mak Mani Utenam.
J'ai besoin de me rapprocher de la nature. Je veux sentir mon corps épouser notre Nitassinan, sa mousse et sa terre humide, particulièrement ces beaux territoires du Nord, mon chez-moi. Je n'y suis jamais allé encore, mais je sens qu'une partie de moi est là-bas. Les épines sèches qui bordent les pieds des sapins, les brindilles et les petites roches m'importent peu. Elles ne sont rien comparées aux douleurs invisibles que la ville me fait subir. Je veux que le soleil qui baigne dans son ciel bleu vienne m'aveugler de tout ce que j'ai pu voir jusqu'ici. Je désire respirer l'air frais et odorant de boisés majestueux au sol riche. Mes oreilles ont besoin d'une pause, d'entendre les oiseaux chanter dans la forêt leur sérénade si envoûtante, et moi, de me laisser distraire par les crépitements des petites branches au passage des animaux, de me bercer au son doux et précieux des rivières qui ont autrefois guidé mes braves ancêtres. Je veux cueillir mes propres fruits, ceux au goût si sûr, mais tellement réel. Je rêve de traquer mon propre gibier, celui que je respecterai, pour lequel je serai reconnaissante, celui qui me fera dire merci mille fois.
Plus largement, plusieurs nouvelles décrivent avec précision des gestes du quotidien, s'ancrent dans des habitudes, même si quelques-unes décrivent des aventures ou des faits plus héroïques. Et les histoires n'en sont pas moins passionnantes, mais les ressorts narratifs laissent de la place à la quotidienneté, à la description de la réalité courante. À la fois, ce sont des petits gestes qui peuvent paraître anodins, mais ils parlent aussi de réalités de vie et de cultures qui sont invisibilisées, stigmatisées ou exotisées. C'est par exemple le cas dans la nouvelle « Kanatabe Ishkweu » dont on a déjà lu d'autres extraits.
L'homme s'empare d'une tasse et d'une théière à l'ancienne. Sur la mini-cuisinière, quelque chose bout dans une casserole. Avec une serviette, à deux mains, il la lève et verse le contenu dans la tasse. Reposant la casserole sur le rond, il ouvre ensuite un pot qui semble contenir un mélange d'herbes. L'homme en prend une pincée assez épaisse et la met dans la tasse. Avec une cuillère, il brasse le tout, puis se retourne vers moi. Il avance lentement et se penche tout près de mon petit lit. Il me tend la tasse. « Fais attention, c'est chaud. Les herbes sont d'ici. Elles vont t'aider à te remettre sur pied. »
Avec ces descriptions du quotidien, les nouvelles du recueil Wapke se démarquent franchement d'une science-fiction classique, trop souvent centrée sur des récits héroïques. D'ailleurs, la plupart des nouvelles qu'elles racontent des aventures ou du quotidien mettent souvent des femmes au centre du récit. Les thématiques du genre ne sont pas forcément abordées frontalement, mais elles existent en filigrane dans beaucoup de nouvelles.
Il y a quand même, moi, ce souci-là de sauvegarde, de transmission des cultures, de ce que j'en connais, des langues. Tu sais, dans mon livre Niche, j'ai écrit un roman jeunesse. Ça se passe à Matimekoche, puis les enfants sont moitié Wendat, moitié Innu. Bien, moi, évidemment, je pouvais pas faire un roman en Innu parce que, un, je le parle pas. Puis deux, personne n'aurait compris. Mais j'ai fait exprès pour insérer des phrases, tout au long. Puis là, il y a une traduction dans le bas. Pour moi, ça, c'est essentiel. Je veux que les gens, les Autochtones, se reconnaissent aussi dans les livres. Fait que c'est un outil, je dirais, de communication pour expliquer des réalités qui sont encore peut-être moins connues avec les Allochtones. Mais c'est une espèce de formule, c'est une espèce d'hommage, en tout cas, c'est ce que j'essaie, une formule de reconnaissance pour que les gens, les Autochtones, les enfants ou autres, puissent aussi être fiers puis se reconnaître, dire « Hey, c'est quoi? Moi, là, ma vie, là, la façon dont je suis, ma culture, même si elle n'est pas parfaite, même si je me cherche, même s'il y a eu les pensionnats, puis il y a eu ci, il y a eu ça, ça vaut la peine d'être raconté. » Fait que c'est un peu ça que j'essaie de faire.
Parce aussi. Que l'identité autochtone, ça a été quelque chose il y a longtemps, c'est... Encore la même chose, tout en étant différent aujourd'hui aussi.
Ben oui.
Tu sais, je veux dire, ça a évolué avec le
temps. Ça a changé, mais je veux dire, on est autochtones, comme évidemment les Québécois aujourd'hui, c'est plus les Français qui sont arrivés ici en 1504. Là, je veux dire, on s'entend, les choses ont changé, on a évolué. On est aujourd'hui, je pense, pas juste une seule culture comme autochtone. On est plusieurs cultures différentes, des cultures autochtones d'abord, mais on est ouvert aussi. Moi, je suis à moitié québécoise. Il y a ça aussi, ça teinte nos vies, évidemment. On vit dans une société qui est plus grande que la nôtre. Donc, ça se ressent, je pense, dans qui on est, dans notre identité, puis forcément dans notre écriture.
Présenter plein de nouvelles en une demi-heure n'est pas une chose facile. Comme Isabelle Picard le dit aussi dans l'extrait que vous venez d'entendre, il n'y a pas une culture ou identité autochtone. Il n'y a pas une écriture autochtone. Les nouvelles du recueil Wapke sont écrites dans des styles très différents, mais souvent vraiment très agréables à lire. J'ai envie de terminer cette émission avec un appel aux éditeuristes qui nous écoutent à étudier sérieusement la possibilité d'une distribution ou édition française en Europe, parce que franchement, ce recueil contient des vraies perles de la littérature d'anticipation. Si par ailleurs vous connaissez des lieux en France, Belgique ou Suisse où ce livre est disponible, écrivez-nous, nous publierons une liste des lieux sur les sites où vous pouvez trouver nos émissions.
C'était le 25e épisode de Vortex et Rotative, autour du recueil de nouvelles Wapke, coordonné par Michel Jean, paru aux éditions Stanké au Canada en 2021. L'ouvrage fait 210 pages et vous pouvez l'emprunter à Grenoble, à la Bibliothèque des Pages Manquantes, au 102 rue d'Alembert.
Cette émission est montée avec des bouts de musique de la musicienne et chanteuse française Léonie Pernet. Au revoir.
Au revoir et à la prochaine.
Vortex et Rotative. sur Radio Dragon et Campus Grenoble.